Vous écoutez France Musique.
Les traverses du temps. Une soirée sur France Musique avec le compositeur Philippe Hersant, c'est toujours magnifique. Alors soyez donc tous les bienvenus. Bonsoir Philippe Hersant.
Bonsoir.
On ne présente pas Philippe Hersant, mais j'ai quand même des choses à vous demander sur votre parcours, parce que j'ai vu que vous êtes allé d'abord à la Casa Velázquez de Madrid, avant la Villa Medici.
Oui, j'ai eu la chance d'aller dans ces deux institutions françaises, que sont la Casa Velázquez et la Villa Médicis. La Casa Velázquez, vraiment au sortir de la classe de composition d'André Jolivet. C'est lui d'ailleurs qui m'en a parlé et qui a fait que j'ai pu passer 2 ans là-bas. Et puis quelques années plus tard à la Villa.
C'est très différent les deux endroits, non?
C'est très différent d'esprit, surtout que j'étais à Casa Velázquez, c'était encore en plein franquisme. Donc il y avait une ambiance un peu... Oui, j'étais en 70. Donc une ambiance assez pesante. Moi, j'ai gardé de très bons souvenirs de l'Espagne, mais... la Villa Médicis, c'était autre chose. D'abord, je retrouvais ma ville natale, parce que je suis né à Rome. Et c'était un rêve que j'avais depuis longtemps, d'aller à la Villa Médicis.
L'autre question, c'est que j'ai lu dans un journal anglais que vous étiez un peu écarté du monde musical. Vous avez eu un moment de réflexion, quelques années, c'est vrai? Vous avez commencé à lire beaucoup à...
Mais c'est vrai que...
Pour trouver votre musique intérieure, disons.
Oui, avant d'aller à la Villa Médicis, justement, qui a été pour moi comme une deuxième naissance, en fait, une naissance en tant que compositeur, j'ai eu une période vraiment de grand doute au sortir du conservatoire. Donc, dans les années 70, en fait, je ne trouvais pas ma voix, donc j'ai dû passer 3-4 ans sans écrire une seule note de musique.
Et les bouquins, beaucoup de bouquins.
Alors, beaucoup de livres, beaucoup de... Bon, en Espagne, j'ai beaucoup voyagé, j'ai lu beaucoup, mais je n'ai pas écrit de musique, pratiquement. Alors que j'étais sûr que je voulais être compositeur quand j'avais 5 ans, j'étais plus sûr du tout quand j'en avais 20. Donc le parcours a été un petit peu chaotique, disons. Et c'est à la Villa Médicis que j'ai écrit ce que je considère mon opus 1. Ou peut-être je me suis un peu libéré des influences que je subissais quand j'étais en France, où je m'obligeais à écrire dans un style qui ne me correspondait pas. Donc ça crée toujours des problèmes quand on écrit une musique qu'on a du mal à écouter soi-même. C'est que quelque chose ne tourne pas rond.
Mais vous étiez toujours accompagné de la littérature que vous aimez. Je pense à James Joyce, les Allemands, les romantiques allemands.
Oui, bien sûr. Mais pour traduire tout cela en musique, c'était beaucoup plus compliqué.
Mais pourtant,
j'ai eu une sorte de libération quand je suis arrivé à la Villa Médicis.
Ah oui, complètement.
Ouais. Ah oui, vraiment.
Et le cinéma italien, c'est là-bas?
Oui, ça avait commencé un petit peu avant, mais c'est vrai que ça n'a fait qu'entretenir. Mais c'est vrai que j'ai une passion notamment pour Fellini, que j'ai découvert quand j'avais 15 ans. Cette admiration ne s'est jamais démentie. Mais j'ai toujours eu une passion pour le cinéma, oui. J'ai même songé un moment, j'aurais bien aimé être cinéaste.
Alors on va faire un détour romantique du romantisme allemand en passant par Jules Verne. Parce que le Château des Carpates, c'est vraiment du romantisme allemand dans Jules Verne quand même, parce que l'histoire de cette cantatrice Stella, on pense tout de suite au conte d'Hoffmann avec Stella,
on est
d'accord.
Absolument.
Hein. Et Antonia dans les contes d'Hoffmann qui ne peut pas s'empêcher de chanter, qui en meurt, parce qu'elle meurt toutes ces cantatrices ou quoi?
Mais dans l'opéra, c'est quand même très fréquent. Catherine Clément...
Mais les contes et les contes fantastiques aussi.
Mais dans les contes fantastiques aussi. Oui, c'est vrai que c'est un roman qui est très imprégné, ce qui est assez rare chez Jules Verne, qui est imprégné du romantisme allemand, du roman gothique. Mais d'habitude, il est plutôt anglophile, Jules Verne. Et là, c'est vrai qu'Hoffmann a certainement eu une grande influence sur lui. Elle a quelque chose de plus léger chez Jules Verne que dans le livret que nous en avons tiré. Mais je pense que pour raconter cette histoire, il a eu envie de la transposer dans un décor gothique. Et je pense aussi qu'il a songé au mythe du vampire, puisque c'est à peu près contemporain de Dracula, le Château des Carpates. Et finalement, puisque l'histoire du Château des Carpates, c'est un homme qui invente le magnétoscope, d'une certaine façon, ou la télévision, en filmant une cantatrice qui meurt en scène. Et je pense qu'il associe ça à l'idée du vampirisme. C'est-à-dire en l'enregistrant, il a volé son âme.
L'air de la cantatrice Stilla dans le prologue, le début du Château des Carpates, votre opéra, Philippe Persan, sur un livret de Jorge Silva Melo, était Sylvie Valère, notre grande soprano, l'Orchestre Philharmonique de Montpellier, sous la direction de David Robertson. Pauvre Stilla, c'est un peu l'histoire du reflet, non pas perdu comme chez Hoffmann, du retrouvé un peu, c'est un peu ça, non ? Elle est filmée, il le voit à un moment.
Elle est filmée, elle meurt en scène. Et
le comte qui est amoureux d'elle.
Le comte, c'est-à-dire elle est amoureuse de deux... Elle est aimée de deux hommes qui l'aiment très mal tous les deux. C'est-à-dire que le ténor n'aime en elle que la femme et veut qu'elle arrête de chanter. Alors que le baryton, lui, ne s'intéresse absolument pas à la femme, il n'est amoureux que de sa voix. Donc, il l'enregistre, il la filme et il la passe en boucle dans son château dans les Carpates. Et le ténor est à la recherche de ce personnage parce qu'il pense que lui seul pourra lui expliquer la mort inattendue de la Stilla. Et donc, il réentend, ce qui doit être quelque chose d'horrible. Vous imaginez Callas mourant en scène et quelqu'un l'ayant filmé et le passant en boucle. Il y a quelque chose de très morbide dans ce roman de Jules Verne.
Je reviens sur vos passions parce que j'ai parlé de littérature, mais j'ai oublié la littérature de l'Orient, de l'Extrême-Orient, le Japon aussi, parce qu'on va entendre une œuvre inspirée d'un haïkai.
Oui, inspirée des haïkus de Basho. Voilà, qui était le premier grand maître du haïku, de cette forme poétique très brève, très concise.
On a l'impression que c'est un carnet de voyage, c'est un peu ça, non ?
Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé par écrire sur commande d'un pianiste, Thierry Ravassar, un petit haïku qui durait une minute. C'est une commande collective. Il y avait 24 de mes confrères avaient également écrit une pièce. Et puis, je me suis pris au jeu et j'ai eu envie d'écrire un cycle. Alors, le cycle s'est fait progressivement, petit à petit. Et voilà, au départ, il y avait une pièce d'une minute. À l'arrivée, il y a un grand cycle de près de trois quarts d'heure.
Et là, on entend, vous n'hésitez pas à parler même, je ne dirais pas de vos références, mais il y a des compositeurs qui vous inspirent. Vous voyez un petit texte, vous dites tiens.
Beaucoup d'associations d'idées, beaucoup de souvenirs musicaux qui me reviennent à l'esprit, que ben, quand j'avais 20 ans, je chassais parce qu'il ne fallait pas être dans la référence. Et puis maintenant, j'accueille ça très, très volontiers. Donc, ce sont des souvenirs musicaux, sont rarement des citations exactes, mais c'est voilà, des émotions que j'ai eues il y a des années, et puis qui ressurgissent. Et que,
il y a même un petit hommage à Olivier Greif.
Oui, oui, oui.
Et là, on va écouter dans l'air du soir. Ça, c'est le titre, déjà, c'est très Debussyste.
Voilà, le titre est Debussyste. Il y a d'ailleurs une toute petite citation de Debussyste qui est assez masquée. Mais qui
et la lune voilée qu'on va entendre après, c'est l'embryon.
C'est le noyau. C'est la première pièce du cycle qui s'est retrouvée là en huitième position.
Et l'enchantement, et c'est Alice Adair au piano, une interprète que vous aimez particulièrement, qui adore votre œuvre et
voilà,
qui sait
écrit le cycle pour
la divulguer partout. On écoute donc ces trois extraits d'Éphémère de Philippe Hersant.
Thank you.
C'était deux extraits, non pas trois, comme je l'ai annoncé, Philippe Hersant, c'est dans l'air du soir et lune voilée de votre série d'éphémères. Philippe Hersant, on va rentrer maintenant dans votre univers du chant, parce que ça compte beaucoup pour vous. Et curieusement, les textes sont souvent des textes allemands. On va écouter, alors c'est une des dernières œuvres qu'on va entendre, le Indifferne de Clemens Brentano, que vous avez mis en musique.
Oui, alors c'est un cycle qui a été créé à l'abbaye de la Pré il y a quelques années, par Alice Adair toujours, et puis Mathieu Lecroir. Et c'est sur divers poèmes allemands. Celui qu'on va entendre, c'est effectivement Clemens Brentano, mais c'est un hommage au romantisme allemand qui pour moi compte énormément. C'est pour ça que j'ai tant écrit en allemand, bien que ça soit une langue que je ne parle pas, que je ne pratique pas. J'ai une passion pour le romantisme allemand.
Il faut qu'on parle d'un festival qui va presque vous rendre hommage. Vous êtes plutôt l'invité d'honneur,
n'est-ce
pas ?
Oui, c'est ça. Oui,
ça se passe en Normandie, on est d'accord ?
Les
promenades musicales.
Oui, au Pays d'Auge. C'est Christine Vandal qui s'occupe, qui est la directrice de ce festival depuis des années. Là, ça sera le 20e anniversaire. Elle m'a commandé une pièce, d'ailleurs, sur des poèmes de William Blake, qui seront créés le 16 août,
à 20h au Château du Pin.
Voilà, avec Rufus
Müller
et David Abramowitz. Et puis ce cycle de leaders, Indifferne, sera joué lors du dernier concert du festival. Enfin, je crois qu'il y a encore un concert surprise après.
Il y a un concert le 17 aussi.
Voilà, il y a un concert le 17. Alors, ça ne sera pas Mathieu Lecroix, ça sera Alain Buet et Jonas Vito qui reprendront ce cycle créé donc à l'après.
On va écouter Indifferne avec Mathieu Lecroix, Alice Adair, un poème de Clemens Brentano, musique Philippe Hersant. Indifferne, poème de Clemens Brentano, que vous avez mis en musique Philippe Hersant. Et pour entendre tout le cycle, donc rendez-vous le dimanche 17 août à 18h au château de la Roque-Baignard, dans le Pays d'Auge, en Normandie, et la veille, le samedi 16 août, au château du Pin. Et bien maintenant, on va venir à un grand concerto. On va en venir au concerto pour alto que vous avez appelé Musical Humours.
Alors ça, c'est un hommage à un gambiste du XVIIe qui s'appelait Tobias Hume, qui est un compositeur que j'ai découvert grâce à Jordi Savall, qui a fait un disque magnifique de sa musique il y a au moins 20 ans. Et cette musique m'a immédiatement frappé. Il a écrit un recueil qui s'appelle Musical Humours. Donc j'ai volé le titre à Tobias Hume. J'ai aussi volé quelques thèmes. Et j'ai écrit une pavane qui était pour alto, qui était déjà un hommage à Tobias Hume. Et puis donc ce concerto.
C'est un drôle d'homme. Il me semble qu'il était militaire.
Oui, il était militaire.
Compositeur aussi.
Et c'était un mercenaire. Il était militaire à la solde du plus offrant.
Et est-ce que c'est ça qu'on entend à la fin?
Non, mais enfin c'était un personnage étrange que j'aime beaucoup parce qu'il avait des sautes d'humeur tout le temps. Il était à l'intérieur d'un même morceau. C'est Il y a des choses très douces et puis brusquement des accès de violence. C'est un personnage étrange.
On écoute. Thank you. Il est 19h33, vous écoutez France Musique et dans les traverses du temps, notre invité, c'est Philippe Hersant, dont nous écoutions le concerto pour alto et orchestre, le dernier épisode où nous écoutions, qui s'appelle Musical Humours, Arnaud Thorette alto, l'orchestre de l'Université Paris-Sorbonne, sous la direction du pétulant jeune chef Johan Fargeau. Philippe Hersant, là on entendait quelque chose d'anglais, de musique anglaise à la fin.
À la fin, il y a une petite citation d'un morceau de Tobias Hume qui s'appelle « Jig for the ladies », une jig pour les dames. Et donc, au début, j'avais fait le pendant qui était plutôt une jig,
ah oui, c'est une musique
voilà,
assez
vigoureuse.
Assez vigoureuse juste avant. Vous avez passé un moment à Clairvaux, et ça, c'est extraordinaire, cette expérience que vous avez vécue. C'était il y a 2 ans
Ça continue. Hein. J'ai commencé il y a 2 ans, effectivement, mais là, j'ai écrit une nouvelle œuvre qui va être créée au Festival de Clairvaux en
septembre prochain.
Une abbaye
transformée en prison.
Voilà, c'est une abbaye qui a été transformée en prison, qui est redevenue... la prison a été construite, une autre prison qui a été construite à côté, mais cette prison jouxte l'abbaye, si bien que de loin, on ne sait pas très bien ce qui est la prison et ce qui est l'abbaye. C'est un lieu tout à fait étonnant. Et Anne-Marie Salé, qui habite dans cette région, a eu l'idée de faire un festival dans l'abbaye en se disant qu'elle ne pouvait pas ignorer la prison qui était tout à côté. Donc elle a voulu associer absolument ce contexte à son festival musical. Et elle a demandé à des compositeurs, d'abord Thierry Machuel, puis moi, d'écrire des musiques chorales sur des textes écrits par les détenus. Alors elle fait des ateliers d'écriture là-bas. Et j'ai donc écrit il y a 2 ans « Instant limite » sur des textes de détenus de la centrale de Clairvaux que j'ai rencontrés. Donc c'est une expérience assez forte, assez bouleversante. Enfin,
on va leur dédier cela ce soir. On va écouter Franck, le texte de Franck qui s'appelle « Porte ». C'est magnifique. Une porte se ferme, une autre s'ouvre sur le silence plein de sagesse. Nemo. Et puis Dumais, qui est un message personnel sous haute surveillance. « J'ai besoin d'appeler une voix aimée ». On écoute ces extraits de Instant Limite, Philippe Hersant, l'ensemble vocal Aïdès, avec l'ensemble vocal Aïdès, tout simplement.
A cappella. Voilà, que dirige Mathieu Romano.
You know.
extrait de Instant Limite que vous avez composé, Philippe Persan, après votre travail avec les gens de Clairvaux et les prisonniers aussi, l'ensemble Vocal Aedes, direction Mathieu Romano. On entendait quoi à la fin ce...
Une flûte, dans le loin. C'est dans le lointain, c'est Jean-Luc Menet.
Quel bel ensemble, l'ensemble Aedes.
C'est un ensemble magnifique.
Et vous avez enregistré ça après un
le
concert.
Le lendemain, c'est en grande partie le concert, avec quelques petites retouches qu'on a fait le lendemain sur place. Mais je crois qu'ils ont gardé essentiellement le concert et voilà, c'est... Magnifique, c'est un des très très bons ensembles vocaux français actuels.
Et on va les écouter maintenant dans une œuvre que vous avez composée d'après Bach. Et j'ai pas pu m'empêcher de penser à Olivier Greiff, ne serait-ce que le titre, Durch Adam Fals.
Oui, bien sûr, c'est un choral que Greiff utilise dans son concerto pour violoncelle, il a donné le même nom d'ailleurs. Et il se trouve que Microcosmos, Loïc Pierre, donc, m'avait commandé une pièce. C'était une œuvre collective, en fait, autour du Paradis perdu d'André Chédid, un texte d'André Chédid. Et Paradis perdu, ben, j'ai pensé immédiatement au choral d'Orch Adam Fall, puisque c'est justement le choral qui parle de la chute d'Adam. Donc j'ai écrit cette pièce pour eux en intégrant le choral de Bach.
Par la chute d'Adam, la nature et l'essence humaine sont corrompues. Nous ne pouvons guérir sans le secours de Dieu. Durch Adam Falls, le célèbre choral de Bach, qui a inspiré cette nostalgia que vous avez composée, Philippe Herson, et interprétée ici par l'ensemble Aïdes, toujours dirigé par Mathieu Romano, avec Régis Pasquier au violon.
Oui.
Et on revient au leader, un cycle qui s'appelle Le cours de la vie,
Lebenslauf, le titre est emprunté à deux poèmes. Il y en a deux distincts de Hölderlin.
Quelle drôle d'histoire aussi, Hölderlin, pas quel poète.
Oui, c'est un poète. J'y suis revenu d'ailleurs. J'ai écrit un autre cycle en hommage à Jean-Jacques Rousseau d'ailleurs, parce que Hölderlin adorait Rousseau, donc j'ai réuni tous les textes de Hölderlin consacrés à Rousseau. Mais bon, ça c'était un peu ma première incursion dans le domaine du romantisme allemand. C'est une œuvre relativement ancienne que j'ai écrite juste après le Château des Carpates, donc en 92 ou 93, et dans laquelle j'ai voulu retracer de façon très brève et très évidemment un peu schématique le cours de la vie de Hölderlin, depuis ses premiers poèmes qui sont des quatrains très très simples jusqu'aux poèmes de la fin qui sont aussi très souvent des quatrains très simples avec et en passant par cette poésie très très travaillée, très énigmatique, très que l'on trouve disons à la maturité. Donc c'est une sorte de parcours comme ça, de survol de l'œuvre poétique de Hölderlin.
Et cette œuvre sera interprétée dans un endroit absolument magique, puisque c'est au Festival des musiques interdites de Marseille. Ça sera, il me semble, le dimanche 6 juillet à 21h sur le grand plateau à la friche de la Belle de Mai. Vous êtes allé visiter ça? C'est un espèce de grand toit, non?
Non, je ne connais pas encore.
Ah là, ça va être extraordinaire, encore, en plein air, sous les étoiles.
Oui, là, c'est un festival dont s'occupe Michel Pastor, qui m'a fait aussi l'amitié de me commander une œuvre spécialement pour ce concert.
Et une œuvre importante.
Voilà, sur un texte de Charlotte Delbo,
qui était une rescapée des camps.
Des camps d'Auschwitz. Et il y aura le Pierrot Lunaire aussi. Et donc, Lebenslauf fait cette nouvelle création pour baryton.
Donc, je le rappelle, dimanche 6 juillet, n'hésitez pas à Marseille d'aller nombreux sur ce toit, sous les étoiles, à 21h, à la friche de la Belle de Mai. Écoutez le Lebenslauf de Philippe Herson, mais aussi la création sur le texte de Charlotte Delbo, qui s'appelle « D'où nul n'est revenu ». Puis aussi, on en profite pour parler de ce festival au Marais, qui va vous rendre hommage. Il y aura tous les soirs du Herson, partir du 6 juillet, à l'hôtel
Soubise. Ça commence
Soubise.
Le même soir, oui, mais c'est à l'hôtel de Soubise. Alors, il y a beaucoup de jeunes interprètes formidables, le trio Karenine, Edgar et Raphaël Moreau,
et encore un lead allemand. Vincent.
Il y a aussi encore un lead allemand.
Nachtlied.
Nachtlied.
Chant de la nuit. Le 8 juillet. Et tout le temps, presque tous les soirs, bravo.
Presque tous les soirs, oui. Oui. Et puis vraiment des musiciens formidables, jeunes, mais déjà formidables.
Et on va écouter deux extraits de ce Lebenslauf, les fragments et la ligne de vie. Les lignes de vie sont multiples. Ce que nous sommes ici, ici-bas, un Dieu là-haut peut l'achever dans la paix et la grâce éternelle.
Sie spüren mich.
La soprano Mary McLaughlin avec l'ensemble Adair dans ces deux extraits du Lebenslauf composé par Philippe Hersant, ici présent, 1992. Et le dernier, qui est, c'est magnifique, ce dernier lead qui s'appelle La ligne de la vie, le cours de la vie finalement.
Voilà, un des derniers poèmes de
Hölderlin. Et on va terminer par un ballet qui a, je trouve, presque des formes d'opéra.
Oui, c'est, il y a presque un livret d'opéra. C'est vrai que c'est presque un opéra sans parole, en fait. C'est d'après les Hauts de Hurlevent, c'était un ballet de Kader Bellarbi qui a été présenté à l'Opéra de Paris au début du siècle, en 2002, qui a été repris deux autres séries de représentations. Et c'est bon, une très belle aventure musicale. C'est un grand ballet romantique de près une partition de près de deux heures. Je crois que c'est la partition la plus longue que j'ai jamais écrite. Et une expérience difficile parce qu'il faut à la fois coller, disons, au roman d'Emily Brontë, mais aussi et surtout à la chorégraphie de Kader Bellarbi. Donc c'est un exercice où on se sent un petit peu contraint. Mais voilà, ça a été vraiment une très belle expérience.
Ce qu'on va entendre, c'est le dernier épisode, c'est Heathcliff après la mort de Catherine.
Oui, 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 c'est les retrouvailles par-delà la mort, disons. De ses amants maudits.
Eh bien, on va écouter l'Orchestre National de Montpellier sous la direction de Daniel Kafka dans ce dernier épisode des Hauts de Hurlevent qui s'appelait Heathcliff, du nom du héros.
Alors, Heathcliff, c'est le nom de la suite d'orchestre.
C'est le nom de la suite d'orchestre, c'est ce qu'on entend là. C'était donc Philippe Persson, c'était pas la toute fin, mais le dernier épisode.
Non, c'est le début du dernier épisode.
Des Hauts de Hurlevent. La suite d'orchestre s'appelle Heathcliff, du nom du héros qui a perdu sa chère Catherine et qui la retrouve là, dans cet épisode, dans l'au-delà. C'est l'Orchestre National de Montpellier, sous la direction de Daniel Kafka. Donc, beaucoup de projets. Donc, rendez-vous à l'Hôtel de Soubise tout bientôt. Rendez-vous en Normandie, dans le Festival des Pays d'Auge. Rendez-vous aux Musiques Interdites sur le toit de la Friche de la Belle de Mai.
Et à Symphonia en Périgord à la fin du mois d'août.
Mais c'est merveilleux parce qu'on crée votre musique partout, tout le temps. Et c'est vraiment une musique que tout le monde aime. Donc le mot contemporain veut tout simplement dire vous faites de la musique de notre époque. Point. Il n'a pas la connotation. Attention, il ne faut pas aller. Merci à l'équipe d'être.
Merci
à vous et merci à l'équipe de Traverse du Temps, Alexandre Billard, Emmanuel Rose, Jean-François Souvilly, Martine Moni et Philippe Petit qui a réalisé cette émission.